d'experts qui installe et répare des clôtures depuis 1991 est à la recherche d'une ou d'un chef d'équipe pour l'installation de clôtures. Tu détiens ta carte ASP Construction, un permis de conduire valide. Tu démontres du leadership pour gérer une petite équipe sur le terrain tout en participant activement aux travaux manuels. CM Clôture cherche quelqu'un de mobilisateur, à l'aise avec les responsabilités pour assurer la qualité sur les chantiers. Viens bâtir avec nous du solide. 418-723-0156 ou cmclôture.ca.
Democo Nettoyage spécialisé vous propose différents forfaits afin de garder votre maison propre. Nettoyage de bacs de matière résiduelle, de votre système de ventilation, de votre thermopompe et même de vos surfaces extérieures. Democo Nettoyage spécialisé est votre partenaire de confiance dans l'entretien de votre résidence. Nos forfaits sont disponibles à partir de $455. Abonnez-vous en appelant au 418-509-1699. Democo Nettoyage spécialisé, propre, simple et local.
Ne manquez pas la 23e édition du Festival Country Western de Saint-Gabriel du 8 au 17 août. Spectacle, danse, rodéo, gymkhana, tir de chevaux et jeux pour enfants vous attendent. Profitez de l'expérience complète. Réservez maintenant votre forfait pour les deux fins de semaine. Bonne nouvelle, le forfait est en promotion jusqu'au 25 mai sur notre site web festivalsaintgabriel.com. Une invitation d'Electro 1983, Jack Ranch, SA Service Agricole et Construction Jalbert et Pelletier. Au plaisir de vous rendre country du 8 au 17 août. festivalsaintgabriel.com.
FM 93, la radio qui fait jaser. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets qui vous mettent et qui vous mettent. Sans filtre. La radio qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent. FM 93.
Cogeco Média. Jusqu'à 20h, vous écoutez Ça va aller loin.
Un dossier qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est un papier de Marie-Ève Moras. C'est tiré du journal La Presse. C'est sur le harcèlement de rue. Chez nous, ici au Québec, à Montréal, il y a des recherches qui ont été faites à cet effet. Il y en a peu quand même des recherches sur ce sujet. Et on a souvent tendance à penser que le phénomène du harcèlement de rue, c'est ailleurs. C'est en Europe, c'est pas ici chez nous. Et moi, pour être maman de deux adolescentes, je peux vous dire que le harcèlement de rue, ça existe à Montréal, ça existe dans le transport en commun. Je pensais que peut-être j'étais un petit échantillonnage, mais force est d'admettre que les données nous démontrent aujourd'hui que non. Puis pour l'anecdote, moi je courais beaucoup avant à l'extérieur et j'ai arrêté de courir à certaines périodes de l'année parce que je trouvais ça insupportable de me faire crier après par des hommes en voiture, de me faire suivre même dans les rues. Donc c'est vraiment un phénomène qui est présent et qui suscite de la peur, c'est-à-dire on en parle souvent ici à l'émission, un peu des disparités. Ça, c'est un truc plate qu'on a, nous les filles, quand on sort dans la rue, il y a toujours une espèce de sentiment de peur. Tu sais, je me fais-tu suivre, je me fais-tu regarder. Donc, à un moment donné, ça devient vraiment achalant. Et j'ai la chance d'avoir la chercheuse qui s'est penchée sur cette question-là, sur la question du harcèlement de rue. Elle est ici avec moi, Mélusine Dumerchat. Elle est doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Mélusine, salut!
Salut Geneviève.
Merci d'être avec moi. Je disais tantôt un peu à la blague, mais pas tant que ça, que c'était le retour du printemps, mais aussi le retour des mononcles, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui font des commentaires déplacés aux madames.
Oui, au printemps, on entend souvent des témoignages se multiplier à ce sujet-là.
Ils ressortent comme les fleurs. Parlez-nous tout d'abord des données de cette recherche. Parlez-nous de ce phénomène-là, comment vous l'avez documenté et c'est quoi le portrait?
Alors, on a commencé à se pencher sur le phénomène du harcèlement de rue il y a quelques années avec des équipes de recherche et avec le Centre d'éducation et d'action des femmes qui milite beaucoup sur cet enjeu. On a fait donc des recherches avec des femmes adultes. Et il y a une enquête statistique qui a été menée à Montréal qui montre que chez les femmes adultes interrogées, 9 sur 10 disent avoir été donc ciblées quand elles étaient jeunes. Il ressort donc que finalement, plus on est jeune, plus on en vit. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché vraiment sur ce sujet-là spécifique. Parce que finalement, autant les mouvements féministes, les groupes communautaires qui se mobilisent sur ces enjeux-là l'avaient déjà identifié, autant on ne s'était jamais vraiment penché très précisément sur le vécu des jeunes.
Oui, puis c'est des jeunes filles là, dont on parle dans le papier de Marie-Ève Moras. Là, on parle de jeunes filles de moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces jeunes filles-là?
Alors ouais, nous, on a rencontré des jeunes qui, pour la plus jeune, avaient même 10 ans. et donc, la plupart des jeunes interrogés nous disent qu'elles ont vécu leurs premières expériences de harcèlement de rue quand elles avaient autour de 10 ans, justement. Donc, souvent enfants, ados. On en a rencontré une vingtaine qui se sont réunis donc en petits groupes pour aborder le sujet en profondeur avec elles et vraiment avoir accès à leurs témoignages et leur vécu. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, donc elles vivent du harcèlement de rue d'une façon assez spécifique. Elles sont vraiment ciblées, elles le disent elles-mêmes, parce qu'elles sont jeunes, par des adultes la plupart du temps qui sont bien conscients de cet écart d'âge. Il y en a plusieurs qui disent qu'elles ont été même ciblées alors qu'elles étaient en uniforme scolaire, dans l'autobus.
Le fameux uniforme qu'on voit beaucoup dans la pornographie, la petite jupe carottée et tout ça.
Oui, donc il y en a plusieurs qui disent qu'elles se sentent vraiment sexualisées. Elles rapportent donc des gestes qui vont de, voilà, des propos dégradants, sexualisants, fétichisants, mais aussi paternalistes, infantilisants. On les appelle ma petite fille. Enfin voilà, on leur fait des commentaires sur comment elles s'habilleraient, ce serait trop sexy ou pas assez sexy. En tout cas, c'est jamais comme il faut. Puis il y en a plusieurs qui parlent aussi de violences, là vraiment de type attouchement, exhibitionnisme et aussi voyeurisme. Je pense que Marie-Ève Moras, elle en parle dans son article, justement, il y en a plusieurs qui partagent avoir vécu des formes de voyeurisme qui prennent, c'est des passants qui peuvent prendre des photos sous les vêtements. On appelle ça carrément le upskirting, il y a un nom, pour désigner ce type de geste là, en fait, où on va prendre des photos des parties intimes sous les vêtements, et souvent elles sont après ça distribuées sur les réseaux, sur internet.
C'est épouvantable, et ça se passe beaucoup dans les transports en commun, métro, autobus.
Ouais, il y a beaucoup de participantes qui à la recherche qui ont évoqué en fait des situations dans les transports en commun, sur le chemin qu'elles prennent pour aller à l'école, dans les parcs autour de chez elles, donc dans vraiment des espaces du quotidien en fait.
Mais Lisanne, à votre connaissance, les gens qui sont témoins de ce type de comportement là de la part d'hommes adultes là envers des jeunes adolescentes, est-ce qu'ils interviennent, ces témoins là
Alors, il semblerait que la majorité du temps, les témoins n'interviennent pas, mais il faut savoir que c'est aussi souvent par peur ou alors par inattention. C'est-à-dire que les harceleurs s'arrangent aussi pour cacher leurs gestes. Il faut bien voir que c'est souvent dans des espaces qui sont fréquentés sur le moment, mais pas forcément visibles. Donc malheureusement, il peut y avoir des témoins, mais des témoins absents, c'est-à-dire que qui ne voient pas ou qui n'osent pas en fait intervenir.
Je vais raconter un truc, Mélusine, quand même, parce que moi, je me rappelle très bien du moment, parce que bon, moi, je suis une femme adulte, tu sais, et je regarde un peu autour de moi, bien entendu. Et je me rappelle du moment où je me promenais avec ma plus grande sur une rue très achalandée de Montréal. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les regards sur elle avaient changé. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle avait peut-être 12, 13 ans. Et là, je voyais des hommes, 25, 30 ans, 40, 50, la regarder. Mais pas comme on regarde une petite fille, là. Mm-hmm. Regarder ses attributs. Naissant, finalement, regarder son corps qui changeait, puis la regarder avec une certaine concupiscence, elle s'en rendait pas compte sur le coup, mais moi, je m'en rendais compte comme mère, puis je me dis, mais comment des hommes de cet âge-là peuvent sexualiser des petites filles qui sont encore, oui, ce sont des adolescents, mais ce sont des enfants, ce sont des femmes mineures, des jeunes filles mineures. Puis ça m'amène à vous poser la question suivante sur la fameuse discussion qu'on doit avoir avec nos filles qui est vraiment plate, parce que on est toujours un peu déchirées comme femmes, surtout comme femmes féministes, de parler de la question de l'habillement. Justement, tu sais, parce que la mode est quand même sexy, puis j'ai rien contre ça, j'ai pas de problème avec ça, puis on est toujours en train de dire aux filles tu sais que leur corps leur appartient, qu'il y a une certaine, même un certain côté empouvoirant aussi qui vient avec ce corps-là. Et là, tout à coup, ta mère arrive et elle dit, mais si tu t'habilles comme ça, tu risques d'avoir des problèmes, malheureusement, parce qu'on vit dans une société où il y a encore des gars qui pensent que c'est une invitation, et ça me brise le cœur.
Ben oui, c'est particulièrement,
c'est très délicat,
particulièrement délicat comme sujet, parce que beaucoup de parents sont confrontés à cet enjeu-là.
Un discours contradictoire là qu'on
et
a.
Oui, on est pris dans des contradictions, donc c'est un sujet, je pense, à vraiment manipuler avec avec nuance et avec empathie vis-à-vis des jeunes, notamment. En fait, les jeunes nous ont dit que bien souvent, avant même d'avoir vécu leurs premières expériences de harcèlement de rue, elles avaient quand même eu la discussion avec des parents, avec des femmes de leur entourage. Et souvent, on leur a donné des conseils sur leur sortie dans l'espace public. Donc, avant même de vivre leurs premières expériences de violence, elles savent qu'elles risquent d'en vivre.
C'est sur leurs épaules, finalement.
C'est sur leurs épaules que repose la responsabilité d'assurer leur propre sécurité. Ce qui va souvent emmener un sentiment de responsabilisation et, par la suite, de culpabilité. Parce qu'en fait, même si elles respectent toutes les consignes qu'on leur donne, elles vont quand même en vivre du harcèlement de rue. En fait, le harcèlement de rue se produit malgré l'habillement, malgré l'heure du jour ou de la nuit, malgré qu'on sorte seul ou accompagné.
Vous avez des données là-dessus, peu importe, c'est tout le temps, finalement.
Oui. Et ça a été documenté dans plusieurs pays du monde. Mais même à Montréal, effectivement, c'est vraiment ce qui ressort, en fait, peu importe l'habillement. Donc, les filles sont déjà très conscientes de leur corps et de la manière dont elles doivent se mouvoir dans l'espace. Elles font très attention à la longueur des jupes, des shorts.
C'est une fatalité. Alors, c'est ça qui est terrible à dire.
J'aime penser que ce n'est pas une fatalité.
Non, il faudrait pas, mais c'est comme si c'était une fatalité.
Alors, en fait, le fait est que c'est une construction sociale, donc sur laquelle on peut intervenir. Les filles, ce qu'elles nous racontent, c'est que finalement, quand elles vivent des épisodes et que les gens autour ne réagissent pas et qu'elles-mêmes ne savent pas trop comment réagir, ce qu'elles remarquent, c'est que très souvent, elles sont frustrées qu'on leur ait pas appris à se défendre. Et plusieurs disent qu'en grandissant, ben, par la force des choses, elles apprennent davantage à poser leurs limites. Certaines disent avoir suivi des cours d'autodéfense, avoir pris des cours même d'arts martiaux, etc. Et que ben, finalement, ça change un petit peu le rapport. Donc, ben, ça, c'est quelque chose, je pense, qui ressort aussi un peu de nos travaux et de leurs témoignages. Il y a peut-être des choses à aller chercher là aussi dans la manière dont on éduque les filles et aussi dans la manière dont on leur...
Mais de la manière dont on éduque les gars aussi, j'ai envie de dire.
Bien sûr.
Parce qu'ils devraient aussi faire partie de cette conversation-là. Ces hommes-là étaient les enfants de quelqu'un, étaient des petits garçons, étaient des jeunes hommes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la socialisation des garçons qui mène vers... on dirait quelque chose qu'ils prennent pour acquis, c'est-à-dire on peut interpeller des filles dans la rue, on peut les suivre, on peut les harceler. Mélusine Dumerchamp, merci.
Merci à vous.
Qui est doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, autrice d'une recherche à laquelle on s'intéressait aujourd'hui sur le harcèlement de rue, qui est un phénomène bien, bien présent. Autobus, transport en commun. Si vous en avez vécu, textez-nous 98985. Il y a toujours aussi mes médias sociaux où vous pouvez partager vos expériences. Moi, à un moment donné, ma fille avait peur de prendre le métro. Restez là. Après la pause, on va parler du pas.
La chronique Michaud Mifroid avec Pierre Michaud. Une présentation de Point S, garage Martérois de Saint-Luce.
Prix de l'essence, le gouvernement du Québec retire le prix plancher, comme disait François. Un plancher, c'est fait pour marcher dessus, mais c'est fait aussi pour dire on n'ira pas plus bas que ça.
Parce que si t'as pas de prix plancher, ben les plus petits seront pas capables de concurrencer avec les autres.
Exactement.
Ouais, c'est carrément
ça. Ça demande pourquoi ils n'ont pas fait ça il y a 20 ans.
Ouais, c'est ça. Pourquoi ils avaient mis un prix plancher aussi?
Ouais.
Justement, et tu vas voir là, des fermetures de petites stations dans des village, puis pas à peu près. Ça, tu peux être sûr de ça?
Là, on favorise les gros. T'as constaté que le magasin Costco est pratiquement tout construit, puis même on a commencé à construire la station-service.
Ben, j'ai vu ça de loin, pour vrai, il manque pas grand-chose. Tu sens que c'est des voitures dans le stationnement. Et les marchands locaux seront pas capables de compétitionner avec Costco sur les prix, là.
Non, je pense pas.
Ça, là, tu peux être sûr de ça.
Alors, va falloir offrir un service à valeur ajoutée. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais
Michaud Mifroid, du lundi au vendredi à 8h15. La saison de baseball et de softball débute et le meilleur endroit pour s'équiper, c'est chez Baseball ID à Rimouski. Gants, bâtons, chaussures, pantalons et plus, ainsi que de nombreux accessoires, composent l'impressionnant inventaire de produits. Baseball ID, c'est une boutique 100% baseball avec des cages de frappeurs intérieures ouvertes à tous. Démarrez votre saison avec les meilleurs produits et aussi les meilleurs conseils de nos spécialistes. Baseball ID, 180 Léonidas Sud à Rimouski, l'entrée est à l'arrière. Info, 418-723-50. 55.
Des métaux ou un véhicule hors d'usage à recycler? Métal du Golfe à Saint-Anatlet vous les rachète. Cuivre, aluminium, acier et bien plus. En nous apportant vos métaux, vous recevez de l'argent tout en posant un geste concret pour l'environnement. C'est ça, recycler vers l'avenir. Métal du Golfe, votre partenaire pour le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Visitez-nous au 552 rue principale Ouest à Saint-Anaclet ou appelez-nous au 418-723-8885.
Vendredi 16 et samedi 17 mai 20h, venez vivre la musique des années 70 à aujourd'hui avec le groupe Rimouski Soul Project. Événement mémorable Retrouvailles au sous-sol de l'église Saint-Robert de Rimouski. Ces soirées sont présentées par les électriciens Lepage et Simard, le centre financier de Rimouski et la radio FM 93. Le coût d'admission est de 20$ et les billets sont en vente chez Marché Claudin Malenfant, Home Hardware et Audition Musique.
C'est officiel. Toute l'actualité locale est maintenant disponible en un seul endroit, inforimouski.ca. Découvrez-le dès maintenant.
Oh, puis bouée de soleil, les petits oiseaux qui font cuicui, les travaux sur le terrain, au chalet, sur la maison, on sort le barbecue, on remplit la piscine pour être occupé pour l'été.
C'est Sécurité Médique.
Travailleurs forestiers, venez vous procurer tout l'équipement pour se protéger avec la scie à chaîne ou la débroussailleuse. En mai, Sécurité Médique vous offre 20% sur toutes les trousses de premiers soins. Aussi, les bottes de travail uniques, 100% québécoises, sont à seulement 159$ au lieu de 425. Ramenez vos vieilles bottes et on vous donne 25$ à l'achat d'une paire neuve à prix régulier. Magasinez en ligne. SécuritéMédic.com.
Attention, auditeurs du FM 93 Rimouski. Vous cherchez un professionnel en publicité pour donner de la visibilité à votre entreprise? Vincent Gagnon est là pour vous. Originaire de Rimouski et œuvrant dans la publicité depuis 2004, il est le nouveau représentant vente de votre radio locale. Contactez-le au 88-730-1315, 88-730-1315 et faites-vous entendre dans tout le Bas-Saint-Laurent.
93!